Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler de l'obéissance, l'obéissance clé de l'accomplissement des promesses de Dieu. On va voir que Dieu honore ses promesses envers nous dans la mesure où nous obéissons au processus qu'il a fixé pour les atteindre. À travers de la conquête de Canaan, par Dieu, Dieu le peuple israélite, nous allons voir que lorsque notre obéissance suit les promesses de Dieu, la victoire est assurée. Mais nous verrons également qu'à l'inverse, nos désobéissances et notre refus d'écouter sa voix peuvent entraîner des défaites et des dommages dans notre vie. Alors le premier point ce matin, je l'ai appelé pour comprendre le contexte de nos promesses. Avant d'entrer dans notre passage, quand on fait une lecture du livre de Josué, on pourrait trouver le récit de la conquête de Canaan très violent. On peut se demander pourquoi le Dieu dans le monde que nous servons est-il si sanguinaire dans le récit. C'est la promesse faite par Dieu à Abraham 4 siècles plus tôt qui va nous aider à comprendre le pourquoi de ce jugement et comment le peuple hébreu a été utilisé par Dieu comme un instrument pour exercer sa justice. On trouve ce verset dans Genèse 15, verset 15 à 16, où Dieu parle à Abraham et dit: quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les Amoréens étaient un peuple du désert qui vivait au Canaan. Ce terme est un terme générique pour parler de l'ensemble des Cananéens. La version sonore traduit la fin du verset 16 en ces mots: les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Et des fouilles archéologiques et de la littérature cananéenne découverte à Ras Shamra, donc c'est la côte nord de la Syrie, ont permis d'établir que des enfants étaient sacrifiés, que les lieux de culte étaient des lieux de prostitution sacrée et de pratiques occultes. Dieu a donc mis un terme à l'horreur perpétrée par ce peuple. Nous voyons également qu'il a laissé quand même 400 ans avant d'agir, ce qui nous montre la patience de Dieu, qui laisse du temps aux gens pour changer de voie. Mais il arrive un moment, il arrive un point de non-retour où Dieu exerce son jugement. L'anathème biblique se fait donc dans un contexte particulier, dans un temps particulier, envers un peuple particulier, et ce n'était pas une règle générale. Le châtiment des Cananéens a révélé l'aspect de Dieu qui voulait purifier le pays, qu'il avait donné à son peuple, des souillures et de la corruption polythéiste de l'époque. Donc ça, c'était le contexte. Maintenant, nous allons rentrer dans notre passage. Et le premier point que je soulève par rapport à ça, c'est que les promesses de Dieu se saisissent selon son timing. Et on commence la lecture dans Josué 1, verset 1 à 2. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dans ces quelques versets, Dieu rappelle à Josué ce qu'il a promis à son prédécesseur Moïse, celui de faire don de Canaan à son peuple Israël. Il lui informe que c'est le moment, c'est le temps de vivre une promesse pour l'ensemble du peuple. Ce que toute une génération n'a pas vu, ces derniers vont pouvoir le vivre. Et Dieu leur assure d'être de leur partie. Dieu leur assure d'être à leur côté. Dieu leur assure d'être leur soutien au quotidien. Et si la promesse a été donnée depuis bien longtemps, ce n'est que dans le timing de Dieu que nous pouvons nous en emparer. Dieu dit à Josué: maintenant, lève-toi. Ce n'était pas la veille, ce n'était pas plus tard, mais c'était à cet instant présent. Cela ne sert à rien de vouloir forcer des portes que Dieu n'ouvre pas. Je ne suis pas appelé à accomplir mes promesses pour Dieu. C'est lui qui les accomplit pour moi. En tant que chrétien, je ne suis pas appelé à forcer les portes pour Dieu. C'est lui qui le fait pour moi. Ne devenons pas quelqu'un que nous ne sommes pas appelés à être pour atteindre ce que nous voulons. Le danger de vouloir prendre des raccourcis, c'est qu'il débouche toujours sur des impasses. Forcer le passage nous fait penser qu'on gagne du terrain à court terme,
mais nous en fait perdre à long terme et nous oblige bien souvent à devoir revenir sur nos pas. Habacuc nous rappelle que lorsque Dieu nous fait une promesse, cette dernière, elle est vraie et elle est digne de confiance et que nous devons nous y attendre, même si cela semble plus long que ce que nous espérons. Habacuc 2:3, en effet, c'est encore une vision qui concerne le moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi alors vouloir dérober ce que Dieu nous a déjà donné? Pourquoi vouloir s'emparer de ce que Dieu nous a déjà donné? Le point suivant, c'est que les promesses se saisissent en s'emparant au futur de ce que Dieu a déclaré dans le passé. Continue la lecture. Tout lieu que coulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs enfants de leur donner. Le temps du verbe donner ici en hébreu est au passé. Et il est utilisé pour une action qui est déjà complétée. Dieu demande à son peuple de saisir en futur ce qu'il a déjà donné. Le fait de savoir que Dieu a déclaré ses promesses pour nous, que c'est un fait et que ce n'est pas une option pour lui, ça doit nous rassurer en tant que croyants. Le fait de savoir que ce n'est pas une option, c'est un fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est au contrôle de toutes choses et rien ne peut entraver son plan si c'est nous-mêmes et notre attitude. Ce passage nous montre que nous avons notre part à faire. Si la promesse ne dépend pas de mon action, son accomplissement, lui. Si Jésus et le peuple avaient décidé de rester sceptiques et laisser leur crainte de Canaanéens les empêcher d'avancer, la promesse n'aurait pas pu se réaliser par leur intermédiaire. Ils devront fouler cette terre pour voir la promesse s'accomplir. C'est-à-dire, ils devaient poser des actions concrètes en réponse à leur confiance en Dieu. Voilà pourquoi nous voyons à plusieurs reprises que Dieu les encourage à ne pas avoir peur, à se fortifier et à prendre du courage parce qu'il est avec eux. Le don du pays, nous dira le chacune, était inconditionnel, mais son appropriation était conditionnée par l'obéissance du peuple. Le don du pays était inconditionnel, mais son appropriation était conditionnée par l'obéissance du peuple. Point suivant, les promesses de Dieu se saisissent en restant attachées à la parole de Dieu. Je lui insiste seulement, fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, le serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dis-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Nous voyons aussi que Dieu invite Josué à ne pas se détourner de sa parole. Il devait la communiquer et la proclamer au peuple. Les deux versions disent que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. La bouche sert à proclamer, la bouche sert à parler. Donc il devait la communiquer, il devait la proclamer, mais il devait aussi la méditer. Méditer, c'est une activité cognitive qui a lieu dans le domaine de la raison. La loi de Dieu n'est pas quelque chose qui doit être reproduit mécaniquement ou sans penser au contenu de son vie. Certains sont capables de citer plein de versets par cœur, mais ces versets sont donnés à tort et à travers. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Une des disciplines, pour l'étude de la Bible est de faire premièrement sortir le sens du texte, ce qu'on appelle de l'exégèse. On se pose des questions à qui s'adressait l'auteur, dans quel contexte, et toutes ces choses-là. Comprendre ce que disait l'auteur a fait ses premiers auditeurs au sein de leur contexte, de ce qu'ils étaient en train de vivre. Tout ça nous permet de comprendre ensuite ce que Dieu veut nous dire pour nous aujourd'hui dans notre contexte. Mais on a besoin de faire cet effort de dire qu'est-ce que Dieu disait vraiment à lui dans cette situation. Pour qu'ensuite, je puisse faire une bonne interprétation, une bonne herméneutique pour dire qu'est-ce que Dieu veut dire pour ma vie. Beaucoup, malheureusement, ne font pas ça aujourd'hui. Ils s'improvisent communicateurs. Ils font dire au texte ce que Dieu ne dit pas afin de justifier leur position. Voilà pourquoi Dieu a placé des leaders dans l'Église avec des appels particuliers pour équiper et pour édifier le peuple de Dieu. J'ai vraiment apprécié ce don spirituel qui a été donné ce matin. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire avec nous et comment il va nous utiliser, mais c'est nous qui le faisons. Dieu a placé des leaders dans l'Église pour faire ce travail, pour communiquer. Il a placé des appels particuliers. Et c'est pour cette raison qu'à l'Église, nous ne permettons pas à n'importe qui de prendre la parole pour dire n'importe quoi, pour prêcher n'importe quoi. Même si ce dernier se revendique apôtre ou prophète, ça c'est la mode, apôtre, prophète, un tel, il y a un prophète qui vient, il passe un truc, il faut l'inviter, ben non, on ne va pas l'inviter. S'il ne prêche pas la parole de Dieu comme elle est enseignée, il ne prêchera pas les. C'est comme ça que ça fonctionne. La parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. La parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Le théologien Alfred Kuhn écrira que la méditation de la parole de Dieu, c'est le lien entre ce qu'ont vécu les personnages bibliques et nous-mêmes. Elle applique les promesses et les commandements aux circonstances de nos vies en les contextualisant. Méditer, c'est réfléchir, pénétrer dans la signification actuelle de ce qu'on lit. Revenons sur notre texte. Jésus est invité à la méditer jour et nuit. Cela lui parle d'être imprégné des pensées et des principes de la loi biblique, de sorte que devant chaque décision, nous sachions quoi penser et quoi faire. Après tout, il y a encore l'habitude de la lecture méditative de la parole de Dieu qui sature notre esprit des normes divines, de sorte que devant le choix, nous n'avons pas besoin de réfléchir longuement à la volonté de Dieu. Cette méditation et cette dépendance de Dieu en sa parole nous assure le succès. Mais quel est le succès dont on parle? La définition biblique du succès, c'est d'accomplir le plan de Dieu à la manière de Dieu. Ce n'est pas d'accomplir mes plans, mes petites idées à la manière. C'est d'accomplir le plan de Dieu à la manière de Dieu. Celui qui a la priorité et les décisions finales sur nos vies, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est lui. C'est Dieu seul. Nous sommes, vous savez, comme des éponges. Nous nous remplissons du jus dans lequel nous nous baignons. Et malheureusement, il y en a qui se baignent dans du vinaigre. C'est moi le dire avec mon cœur, il y a des gens qui se baignent dans du vinaigre. Nous sommes comme des éponges, on se remplit du jus dans lequel on se baigne. Si je vis un attachement à la parole de Dieu, alors ma façon de penser va s'aligner avec celle de Dieu et me faire agir à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, elle est écrite noir sur blanc sur le texte. Quand Dieu commence à vous parler et à vous dire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole, ce n'est pas le même Dieu qui s'adresse à vous. C'est consigné noir sur blanc. Parfois, nous demandons des choses à Dieu d'une certaine façon, et lorsque nous commençons à méditer sa parole, elle va commencer à changer notre façon de voir et même de demander. Voilà pourquoi on retrouve dans les propos de Jésus le même type de promesse. Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demeurer, ça signifie rester attaché à la parole de Dieu. Et ça nous permet d'aligner notre volonté avec celle de Dieu. Et lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'elle nous sera accordée. Psaume 119, verset 5 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset nous explique et nous démontre que la parole de Dieu est une lumière qui est là pour éclairer notre chemin. Pourquoi a-t-on besoin de voir? Pourquoi avons-nous besoin de la lumière? Simplement pour éviter les obstacles et les pièges. Vous savez, en voiture, c'est différent si tu es un petit peu secoué parce que je vois qu'il y a quelque chose au milieu de la route, il y a une poule et je mets un quart avec mon volant. c'est différent, ça se trouve un petit peu, mais si je traverse une poule à vive allure, finalement, ça cause des dégâts. Et c'est différent de juste être secoué pour éviter quelque chose que de passer en plein dans une poule et de casser les amortisseurs ou je ne suis pas trop bon en voiture, mais vous savez un petit peu tout ce qui se passe sous une voiture. Hein. S'écarter, ça nous secoue un petit peu, mais ça ne nous endommage pas. Dieu dit que ta parole est une lumière pour éclairer notre chemin. Ce que ce verset veut dire, c'est que Dieu souhaite que nous arrivions au bout de notre chemin, sans encombre. Sa lumière nous aidera à identifier les obstacles et les difficultés afin de les surmonter. Ça ne dit pas qu'on va éviter et qu'on n'aura pas des obstacles sur la route. Ça va nous montrer comment les négocier, comment négocier les situations qui peuvent venir. Nous avons donc besoin d'obéir à Dieu. Nous avons besoin de serrer sa parole dans le cœur afin de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Lors de la bataille de Jéricho, Dieu a donné des directives précises à Josué, on ne va pas le dire, mais afin de faire tomber la ville. Je pense que souvent vous avez dû lire ce passage où on nous dit qu'ils ont dû faire le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont dû faire 7 fois le tour, et lors du 7e tour, les prêtres ont commencé à jouer de la trompette, le peuple poussait des cris, et à ce moment précis, la muraille tomba. C'est ce que Dieu avait dit, c'est ce qui s'est passé. Dieu livre la ville, mais eux doivent obéir. Le lien entre le don de Dieu et l'obéissance se fait par la foi. Le peuple devait avoir confiance dans la promesse de Dieu et, sur la base de cette foi, obéir à ses ordres. Alors, vous savez, j'ai été policier pendant quelques années et c'est une stratégie assez étrange que de faire de la musique autour d'une situation pour que la victoire soit donnée. C'est une stratégie militaire assez étrange de faire tomber une forteresse de cette manière. Il faut savoir que Jéricho était entouré d'une première muraille de pierre de 4 mètres de haut et de 2 mètres d'épaisseur, avec une pente de 36 degrés, difficile à grimper pour tous ceux qui voulaient essayer de partir à la tour, parce que pendant qu'ils essayaient de grimper, du haut de la tour, on pouvait envoyer des flèches, des lances, etc. Donc les attaquants étaient exposés aux tirs des défenseurs. Et ensuite, après avoir passé sur cet obstacle, il y avait une deuxième muraille de 10 mètres de hauteur et large de 4 mètres. Dieu demande une obéissance inconditionnelle. Josué, il aurait pu se demander, peut-être que nous, on aurait posé cette question, pourquoi marcher plutôt que de combattre? Pourquoi chanter plutôt que d'aller à une nouvelle bataille? Dieu nous demande aussi une chose, c'est que l'issue de la bataille dépend de nous et non d'un succès militaire. Voilà pourquoi ce sont les prêtres et l'arche qui conduisaient le peuple dans cette bataille. C'était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas une bataille humaine, c'était la bataille de l'éternel. Cette façon étrange de mener le combat sert à mettre à l'épreuve la foi du peuple et sa volonté d'obéir en tout point à Dieu. Vous savez, Dieu vient souvent casser notre logique afin que nous ne dépendions pas de nos propres forces, mais de lui en toutes choses. Et vous avez un petit dessin, notre plan versus le plan de Dieu. Alors, nous, notre plan, souvent, c'est le petit vélo, je dois aller de A à B, voilà le chemin. La réalité avec Dieu, c'est que lui, ce qu'il voit là, c'est juste le tout petit morceau, puis ensuite il faut descendre les rochers. Et puis après, il y a une échelle à monter. Et puis après, il y a une tyrolienne, si on la loupe, il y a un petit bateau en bas. Et puis ensuite, on remonte, on redescend, il y a un orage, on redescend, on remonte, et on arrive au bout. Souvent, notre plan à nous s'oppose à celui de Dieu. Et nous avons besoin d'obéissance et de lui faire confiance. Si nous voulons la fin prévue par Dieu, nous devons accepter sa méthode pour l'atteindre. Si nous voulons la fin prévue par Dieu, nous devons accepter sa méthode pour l'atteindre. Alors vous allez me dire, Satan n'est pas seul. Ce n'est pas au travers de nos œuvres que nous sommes sauvés. Vous avez raison. Mais la grâce de Dieu n'exclut pas l'effort, elle exclut le mérite. La grâce de Dieu n'exclut pas l'effort, elle exclut le mérite. Et Pierre souligne très bien ça dans sa deuxième épître, on va juste lire ce passage, quelques versets. Il nous dit que la divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez suivre la correction qui existe dans le monde de par la convoitise et de devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, et le verset continue. Ce passage nous dit en substance que parce que Dieu a mis sa puissance à notre disposition pour une vie qui le voit, nous sommes invités à dépendre de lui pour vivre une vie de Dieu. Cette puissance, elle est à notre disposition. Et c'est pour nous de nous en servir. Dieu nous dit, je t'ai tout donné. Maintenant, à toi d'utiliser ce qui est à ta disposition. Ce n'est pas un combat de nous-mêmes où on doit essayer de vivre sa vie chrétienne. J'ai lu ce matin dans le train, maintenant, je disais un passage d'un livre sur la souffrance de Timothy Keller avec un parallèle avec la vie chrétienne qui est assez saisissant. Parfois, il compare la vie chrétienne à une plongée sous-marine. Et parfois, on croit que la plongée sous-marine, c'est faire de l'apnée. Pour faire de la plongée sous-marine, on donne une bouteille qui est extérieure à nous, qui nous communique de l'oxygène pour pouvoir nager. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de l'apnée, faire de la plongée de l'apnée, mais pour les moins forts comme moi, je pense qu'on peut tenir 30 secondes. Peut-être que pour les meilleurs, on peut aller 1, 2, 3 minutes, mais on est toujours obligé de remonter. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'apnée où par mes propres efforts, j'essaye. J'essaye de vivre pour Dieu. Dieu met à sa disposition son oxygène, sa puissance, pour que nous puissions vivre cette vie de plongée sous-marine et pouvoir découvrir ce qu'il en réserve pour nous. La vie chrétienne ne peut plus qu'avec la puissance de Dieu et il nous promet de nous la donner pour que c'est libre. C'est à nous d'utiliser ce que Dieu met à notre disposition pour marcher en tant que chrétien. Paul rappellera que la grâce de Dieu est une puissance au sein de notre faiblesse. Kevin DeYoung écrira dans le livre La faille dans notre sainteté. Il dit, ne cherchez pas la sainteté parce que vous avez terriblement peur de Dieu. Poursuivez la sainteté parce que vous avez totalement confiance que vous lui appartenez déjà. Poursuivez la sainteté parce que vous avez la confiance qu'il est avec vous. Il vous a fait une promesse. Et lui va être avec vous pour vous transformer et qu'on puisse davantage au quotidien lui ressembler. Dépendre de sa parole va façonner nos actions au quotidien et nous permettre de lui ressembler chaque jour davantage. Amen. Josué a appliqué ce que Dieu lui avait demandé. Et nous voyons que surnaturellement, les murs de la ville sont tombés et le peuple peut se saisir de cette ville. Ces principes-là sont les mêmes pour nous. Si nous marchons fidèlement dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande, alors nous assisterons à des victoires dans la vie. Le Seigneur apportera le succès surnaturel, même face à des situations qui sont insurmontables à lui humaine. Il donne la victoire sur les peurs, il donne la victoire sur les craintes, il donne la victoire sur les choses qui peuvent triompher de nous. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de désobéissance? Le cinquième point, ne pas chercher Dieu nous conduit à lâcher ses promesses. Nous apprenons que, suite à la prise de Jéricho, les gens du peuple ont désobéi et ont pris des choses pour eux qui étaient dévouées par interdit. Josué 7.1, les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué, fort de son succès à Jéricho, décida d'envoyer des espions comme pour la prise de Jéricho. Josué a écouté alors le compte-rendu de ses espions qui pensaient que la partie serait facile, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, qu'il n'y avait pas besoin de fatiguer tout le monde, d'envoyer toute l'armée alors qu'ils allaient plier la bataille en quelque temps. Les habitants d'Aïe mourent ensuite 3000 hommes d'Israël et 36 hommes périrent dans cette situation. Pourquoi? Parce que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Il s'est appuyé sur son succès passé. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'appuyer sur ses succès d'hier pour affronter les combats d'aujourd'hui. Dieu n'honore pas la promesse si nous n'honorons pas un processus pour se l'approprier. Dans le pays de Dieu, ce sont les lois qui sont celles qui sont valables. Israël ne pouvait conserver le pays sans Dieu. Israël ne pouvait conserver le pays sans Dieu. De même, nous ne pouvons pas conserver la faveur et l'harmonie du coup de notre relation avec Dieu si Dieu n'est pas au centre de nos vies et de nos actions. L'autosuffisance est mortelle. De la même manière que nous avons besoin de nous nourrir régulièrement pour être en bonne santé, nous avons besoin de nous nourrir de Dieu et de sa parole au quotidien pour fortifier notre être intérieur et résister aux luttes du quotidien. Ne croyons pas que parce que Dieu a été avec nous hier, cela nous permet d'être suffisants aujourd'hui. L'histoire du peuple hébreu nous apprend que du temps de Jésus, c'est que nous sommes les fils d'Abraham. Et il utilise ça pour dire on a notre passeport, notre visa pour faire ce qu'on veut. Nous, les enfants de Dieu. N'utilisons pas, ne croyons pas que parce que Dieu est avec nous hier, cela nous permet d'être suffisants aujourd'hui. Le titre du texte nous précise que le peuple hébreu a perdu courage suite à cette défaite. Après un effet suffisant dans nos vies, nous pouvons nous retrouver dans le même état que le peuple hébreu, à savoir consterné et découragé. Il nous arrive même d'en vouloir à Dieu. Mais posons-nous seulement cette question. Est-ce que Dieu souhaitait que j'agisse de telle manière? Parfois, nous reprochons même à Dieu la situation alors que nous nous y sommes nous tout seuls. À l'image de Josué, au verset 7, il s'écrit « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'attendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » J'aime la parole de Dieu parce qu'elle ne raconte pas la vie de super-héros. Elle nous raconte la vie d'hommes et de femmes qui, face à la difficulté, réagissent comme nous. Et dont nous avons, dont nous pouvons tirer des informations précieuses pour gérer nos vies. Dans sa grâce, Dieu va lui révéler pourquoi ils ont essuyé cette défaite. Il va lui demander d'ôter le péché du milieu du peuple en lui donnant de nouveau des directives très claires. L'application de cette directive par Josué va révéler le péché de Achan. Qui a été attiré par un manteau, des pièces d'argent et un lingot d'or. La situation va révéler la mort d'Achan, va entraîner la mort d'Achan et de sa famille, qui avait participé à cacher le méfait, à cacher le péché. Et tout va être brûlé. Laissez-moi vous dire que le péché empêche toujours l'action de Dieu. Et il doit être ôté pour que la relation avec Dieu soit rétablie. La mauvaise nouvelle, c'est que nous agissons tous, moi y compris comme Achan. Et que tous nous avons ce cœur corrompu qui cherche à s'emparer et qui cherche à désobéir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris la condamnation des Achan que nous sommes, en mourant à notre place, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. La question que je me pose ce matin, c'est quels sont les lingots? Quels sont les pièces ou les manteaux peuvent nous attirer, au point de nous éloigner de la volonté de Dieu pour la vie, au point de rejeter Christ et son amour. Qu'est-ce qui peut être le plus important que Dieu dans nos vies ce matin et qui a peut-être besoin d'être mis à la lumière et rejeté de nos vies, afin de pouvoir triompher et de bénéficier de la grâce imméritée de Dieu. Après cette débarrassée du péché au milieu du peuple, nous voyons que la faveur de Dieu revient sur le peuple. Le verset 26 du chapitre 7 nous dit que l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Et cela nous amène au dernier point. Il y a un avenir après la désobéissance. Nous pouvons nous réapproprier les promesses après l'échec. Lorsque nous revenons à Dieu sincèrement, en reconnaissant nos erreurs et en ayant la volonté de le laisser nous changer, il est possible de repartir de l'avant. Il est possible de redémarrer. Il est possible de nous réapproprier les promesses de Dieu. La défaite d'Aïe n'était pas un rejet permanent de Dieu. Dieu ne souhaitait pas que son peuple soit détruit. Mais Dieu souhaitait, il désirait que son peuple revienne à lui pleinement, dans l'obéissance, en se rendant compte de ses erreurs. La volonté de Dieu était la victoire face à Aïe. C'est pourquoi Dieu renouvelle son alliance envers Josué au chapitre 8 et lui donne des directives pour triompher d'Aïe. Josué 8, 1 et 2, l'Éternel dit que Josué n'ait pas peur. Ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Aïe. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Méricho et son roi. Toutefois, je garderai pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Après la repentance, c'est-à-dire après avoir fait demi-tour par rapport à notre foi d'hier ou à nos choix, et se dire maintenant je vais avancer dans ton sens, c'est-à-dire je fais demi-tour, Seigneur, à ma vie passée, je fais demi-tour à mes mauvaises décisions, et je vais décider de te suivre. Après ce temps de repentance, Dieu renouvelle son appel à ne pas craindre et à se lever pour prendre possession de ce qu'il a déclaré. Voyons que Jésus va obéir aux directives de Dieu en donnant aux guerriers la façon dont ils allaient agir. En obéissant à la voix de Dieu, le peuple a vaincu Haï et toute sa population mourue. Et nous voyons une petite différence par rapport à Jéricho, c'est que Dieu offre le butin d'Haï au peuple. Si Achan avait été patient, il aurait eu son butin. Il a cherché à prendre par la force. Il a cherché à prendre par lui-même, pour ses besoins, ce que Dieu avait déjà décidé de lui donner au moment opportun. Ne doutons pas que Dieu est celui qui nous connaît parfaitement et qui prend soin de nous au moment opportun. L'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Parce que Dieu prépare un moment opportun pour que nous soyons secourus. Même si nous sommes éloignés de la volonté de Dieu, il est possible pour chacun d'entre nous de nous aligner de nouveau avec sa volonté et de marcher dans ses promesses. On va conclure. L'obéissance. La clé de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. Ces promesses sont certaines. Mais de la même manière que le salut est gratuit, au travers du sacrifice de Jésus pour nos péchés, que ce salut est un don de Dieu, il se saisit par la foi. Si ce matin, je décide de vous offrir un chèque de 10 000 euros, bon, je ne les ai pas, hein, mais si je décidais de les offrir, que je vous donne le chèque. Là, vous allez beau vous promener avec le chèque en disant j'ai 10 000 euros. Si vous n'allez pas déposer le chèque à la banque, ça reste un bout de papier. Et l'argent, c'est moi qui suis toujours propriétaire de cette somme. C'est notre part d'aller encaisser, de recevoir ce que Dieu nous donne. La foi, c'est faire confiance. Faire confiance, c'est démontrer par nos actions que nous faisons confiance. Le mot grec que nous trouvons dans le Nouveau Testament quand on parle de croire, c'est le mot pisteo, qui nous parle de confiance et d'obéissance. La Bible nous dit qu'il y a d'autres qui croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Ce n'est pas tout de croire intellectuellement qu'il y a un Dieu qui existe. Croire, c'est faire confiance et obéir. Si nous n'utilisons pas cette clé, celle de nous conformer à ce que Dieu nous demande, alors n'attendons pas de lui qui nous donne la victoire. Et ce que je crois, c'est que lui va attendre que nous plions le genou devant lui. Et ce sera un moment d'ailleurs que plusieurs échecs dans nos vies sont des alertes que Dieu permet pour que nous nous détournions nous-mêmes et que nous dépendions de lui. Il nous met tout en œuvre pour nous attirer et nous réattirer à lui. Parce que ça, je crois que c'est ce qui est sur le cœur de Dieu. Il connaît nos résistances. Et il n'est pas en train juste de nous cataloguer, mais il va permettre des circonstances parce que justement il nous aime. Pour que nous puissions trouver une vraie vie, pour que nous puissions détourner les regards de notre nombril et dire Seigneur, c'est le pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Dieu veut nous attirer et nous réattirer à lui. Jacques 4,6 nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je crois que Dieu nous résiste et que nous plions le genou devant lui. Peut-être qu'en ce moment, le Seigneur te demande de renoncer à quelque chose. Peut-être qu'il te demande de faire quelque chose. Tu sens peut-être que ce matin, il t'appelle à abandonner ta vie. Ça fait trop longtemps que tu es au contrôle et qu'il t'appelle à lâcher prise. Peu importe ce qu'il te demande, ne néglige pas ce don merveilleux et les promesses qu'il a pour toi. Je crois que ce matin, Dieu nous invite, en tant qu'Église locale, à un alignement sur son cœur, à un alignement sur ses pensées, à un alignement sur sa volonté. Et moi, en tant que pasteur de l'Église, je fais partie de ceux qui disent oui au plan de Dieu, qui disent oui à sa direction, afin de voir la réalisation Amen. On ne va pas faire de temps d'appel ce matin, mais je voudrais qu'on puisse prier. Et si vous vous sentez interpellé dans votre cœur ce matin, simplement de dire, oui Seigneur, je vais être obéissant, je vous invite simplement à vous mettre debout à votre place. Et on va élever la voix ce matin pour dire, Seigneur, nous voulons être ce peuple qui t'obéit. Seigneur, nous voulons être ce peuple qui te suit. Père éternel, on te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie, Père, parce que tes promesses sont certaines. Tes promesses sont oui et amen. Et Seigneur, au travers de ma vie, je vais démontrer que je te fais confiance. En obéissant, Seigneur, même si je ne comprends pas toujours tout, les directions que tu me fais prendre, si je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez parfois, je vais apprendre à te faire confiance parce que je sais que tu es un Dieu bon, que tu es au ciel, que tu es un papa qui prend soin de nous et qui sait ce qui est le meilleur pour ma vie. Je te prie vraiment d'encourager ce matin, peut-être des uns des autres à prendre position. La foi, c'est décider de te suivre tout que tout. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es fidèle. Nous croyons à ton plan, nous croyons à ta direction pour nos vies personnelles, nous croyons à ta direction pour notre assemblée, nous croyons à ta direction pour notre pays. Mais en tant que disciples, Seigneur, nous voulons nous aligner ce matin. On veut te demander pardon pour toutes les fois, peut-être, on ne s'est pas aligné avec ton plan, on ne s'est pas aligné avec ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, nous méditer, nous voulons serrer ta parole, nous voulons réfléchir ta parole. Et nous laissons façonner pour elle, pour les fois au quotidien. Nous prenons plus que tu te tiens proche de ce qui te cherche. Tu es le rémunérateur de ce qui te cherche. Et je te prie encore d'encourager ce matin, par ta parole, Seigneur, des hommes et des femmes, à s'aligner sur ta parole, à dire Seigneur, j'ai besoin de toi. On en a mal, Seigneur, de faire de l'apnée. Mais on veut, Seigneur, nous saisir de ces bouteilles d'oxygène que tu nous donnes par ta parole, pour vivre la vie qui te mord, pour vivre la vie qui te fait l'honneur ce matin, Jésus. Merci de fortifier encore et d'encourager ce matin, mon Seigneur.